SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie consacrée à l'ancien Premier ministre Robert Menzies. Nous l'avions quitté alors qu'il était évincé du pouvoir en pleine Seconde Guerre mondiale. On va voir dans celui-ci comment il a réussi à reconquérir l'opinion et surtout le pouvoir qu'il va ensuite conserver pendant plus de 15 ans. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Alors effectivement, tout ça, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, donc sur John Curtin. Donc Robert Menzies, il perd sa majorité et le pouvoir en 1941. Et une fois dans l'opposition, en fait, il va innover. À l'époque, personne n'a jamais fait ça, mais il va se mettre à parler aux Australiens de façon très régulière à travers la radio. C'est un moyen qui va lui permettre de regagner un petit peu en popularité. Et puis dans le même temps, on l'a dit, alors initialement au début de sa carrière politique, il faisait partie de l'United Australian Party, donc une sorte de coalition de divers courants de droite. Et c'est à cette même période, alors qu'il est dans l'opposition, qu'il va créer le Parti libéral, celui qu'on connaît encore aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons parler de ça? Donc, nouvelle méthode de communication et l'émergence donc d'un nouveau parti qui, 80 ans plus tard, est toujours là.
Oui. Alors là, on reprend la métaphore, hein, qui fait un discours à la radio pour s'adresser directement aux Français, un certain Charles de Gaulle, un 18 juin 40. Menzies, effectivement, est assez innovant là-dessus, mais c'est dans l'air du temps. Voir que il vient de perdre vis-à-vis de Curtin, qui est un ancien journaliste. Et Curtin est très très bon avec la presse. Et donc un moyen de bypass le contrôle de la presse par un premier ministre plutôt doué, c'est d'essayer de parler directement aux gens. Et en fait, la radio, les médias de masse sont un des grands outils des totalitarismes, hein, que ce soit en Allemagne ou en Union soviétique ou chez Mussolini en Italie. Et donc, effectivement, c'est un peu nouveau dans le paysage australien, mais dans le club des grands hommes politiques de l'époque, ils commencent très clairement à comprendre qu'il y a un intérêt à aller directement au contact des gens, non pas en faisant des meetings ou ci et là, parce que ça coûte de l'argent, il faut se déplacer, c'est compliqué, c'est long, pendant la guerre, il y a des restrictions, mais via les médias de masse. Alors beaucoup de gens sont maîtrisés, savent lire, et d'autres qui ne le seraient pas ont accès de plus en plus facilement à des postes de radio qui sont, de moins en moins chers et qui sont souvent écoutés en communauté. Et donc, c'est un moyen, en fait, au lieu de faire un discours dans une ville, vous pouvez faire votre discours et être entendu un peu partout. Donc, la radio, les ondes, ça fonctionne très bien. Et Menzies, effectivement, devient un peu la conversation au coin du feu jusqu'à là. Il s'intègre dans les foyers australiens, sa voix devient une voix qui est connue des Australiens. Vraiment, sa voix est probablement une des premières, peut-être celle de Billy Hughes un peu avant, qui avait expérimenté là-dedans. Mais pour le coup, toute l'Australie des années 50, 60 connaît la voix de Menzies. Vous demandez à des personnes qui sont âgées aujourd'hui dans la rue, vous leur faites écouter la voix, ils la reconnaissent immédiatement, un peu comme nous, on reconnaît celle de Gaulle, justement. Donc voilà, ça fonctionne bien pour lui parce que il est dans l'opposition, mais il a des ambitions. c'est pas parce qu'il a été défait qu'il s'arrête. Au contraire, il redouble d'efforts pour pouvoir reconquérir le pouvoir, parce que pour lui, la gauche, il n'y a rien de pire. Donc le fait d'avoir non seulement laissé tomber son parti en perdant le poste et en perdant le gouvernement et qu'il y ait la gauche et que ce soit la guerre, tout ça, en fait, c'est vraiment le moment pour se rebrousser les manches. Et alors ce qu'il fait, c'est qu'il dit, écoutez, il faut se reprendre, parce que là, très clairement, on est dans une situation où, généralement, la droite a plutôt bien mené sa barque depuis la fédération, mais là, la gauche s'est solidifiée, on voit bien que les syndicats, les ouvriers et le Labour Party, le parti travailliste, fonctionnent très bien ensemble, et ça représente ce niveau d'intégration et, comment dirais-je, cette force de frappe est dangereuse pour nous. Il faut qu'on fasse quelque chose, et au lieu d'avoir plein de petits partis de droite, il est temps de s'unir. Ça, c'est le classique, c'est l'UMP, c'est le RPR, c'est pas nouveau dans l'histoire politique. Là, j'ai donné l'exemple anachronique puisqu'il tombe bien après, mais ça arrive, l'histoire du Front Populaire avant Menzies en 36. Donc il faut unir la droite pour que la droite gagne. C'est un peu le problème des mouvements qui sont forts et qui commencent à s'effriter sur des points qui finalement sont pas si différents et qui finissent par perdre le pouvoir, que ce soit à gauche ou à droite. Et donc Menzies crée le Parti libéral australien. Le Parti libéral australien que l'on connaît, Australian Liberal Party, le père fondateur, c'est Menzies. Et il le fait de plusieurs façons. Il y a le côté je parle aux Australiens, et donc je m'impose comme grande figure de la droite, et donc si je suis cette grande figure, il est dans l'intérêt de tout le monde de se finir derrière moi, puisque le seul moyen d'arriver au pouvoir, c'est moi. Il le fait aussi via un livre qui s'appelle The Forgotten People, les gens oubliés. Et alors ça, c'est un coup de génie, c'est un livre de 42, donc le fait de ne plus être aux commandes lui a permis d'écrire, et ce livre, c'est encore une des grandes références pour les libéraux aujourd'hui en Australie. Et en fait, l'idée principale du livre, pour faire vite, c'est que, ok, il y a les travailleurs, ok, il y a les syndicalistes, il y a même les communistes, très bien d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a l'élite. Mais en fait, moi, ce que je veux représenter, c'est la grande majorité silencieuse, quoi. Encore ce mythe des gens pas tout à fait représentés, pas tout à fait occupés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, bah, ils veulent un toit, ils veulent un emploi, et puis ils veulent de la stabilité. C'est très régolien aussi, hein, cette idée. Vous savez, le speech de la ménagère, qu'est-ce qu'elle veut la ménagère? Elle veut l'ordre et le progrès. Bon, bah, c'est un peu ça. Mais 15-20 ans avant. Et donc, pour faire ça, vous avez l'appui du public, mais il vous faut aussi les partis. Il les convoque, enfin, il les invite plutôt qu'une convocation, en disant, voilà, j'ai un projet, ce serait de fonder un parti qui, grosso modo, réunit tous les gens qui n'aiment pas la gauche. Plutôt que de s'unir sur un programme où on va se diviser, mettons-nous d'accord sur le dénominateur commun. Est-ce que vous êtes du centre, de gauche ou plutôt de droite? Si vous êtes plutôt de droite, je vous invite à rejoindre ce grand parti où on va faire travailler les gens ensemble. Et ça, c'est le succès de la future machine de guerre du Parti libéral australien qui va permettre à Menzies de devenir le premier ministre, qui sera le premier ministre le plus longtemps dans l'histoire australienne à ce jour. À ce jour. C'est quand même assez impressionnant. Et cette machine de guerre, elle a fonctionné sous John Howard également, premier ministre de droite, dont on parlera probablement parce qu'il est très important, et qui est le second premier ministre en termes de longévité. Donc on voit bien que ce parti donne de la stabilité et donne, comment dirais-je, une longévité aux premiers ministres qui sont ces chefs de parti-là. Menzies, c'est important de le dire, Menzies, il a très bien compris que le grand problème de la droite australienne, c'est ses divisions. Un peu comme, c'est l'équivalent de la gauche, des gauches en France, qui sont très souvent divisées, beaucoup plus souvent qu'elles ne le sont unies. Alors, on a vu le Front Populaire récemment qui a explosé. La dernière fois qu'il y a eu une vraie union des gauches, c'était quoi, la gauche plurielle, et ça n'a pas vraiment gagné. Tout ça pour dire que aujourd'hui, le problème du Parti libéral, et ça c'est, je pense, très important pour les auditeurs qui sont en Australie et qui nous écoutent et qui voient la déconfiture de la droite australienne qui s'éclate complètement, c'est qu'elle est en train de revenir à une situation pré-fédération, voire années 10, années 20, où elle est très divisée, où les petits partis sont en train de mettre le chaos en ne faisant pas avancer le mouvement et plutôt en pensant à ce qu'eux peuvent en retirer. Menzies met ça à ça, progressivement, mais il y arrive en disant, voilà, on va établir des équilibres où il y aura le Parti libéral qui travaillera avec d'autres partis de droite, mais on se met tous d'accord que c'est le grand parti, qu'on se met tous derrière lui et qu'on fera nos équilibrages. En interne, on ne va pas faire notre lessive au grand jour, et qu'on accordera les postes en fonction des équilibres dans les circonscriptions et des équilibres de vote. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait travailler la droite tout entière. Et c'est ça la clé de son succès.
Ok, alors je reviens sur ce fameux livre de Forgotten People et le fait que ce thème... en fait, est toujours activé. Enfin, je pense en fait à Scott Morrison qui a fait campagne précisément sur la fameuse majorité silencieuse et une fois ça a marché et la fois suivante, non. Alors donc, vous le disiez, ce rassemblement de la droite, ce regain de popularité à travers des émissions, des adresses à la radio, à la population, ça permet à Robert Menzies de revenir au pouvoir en 1949. Mais ça n'est pas dû uniquement à, on va dire, à une refondation, un programme qui emporte les foules, etc. 1949, c'est aussi le vrai début de la guerre froide. Et en fait, ce qui va lui permettre de faire basculer la balance électorale dans son camp, c'est le fait que lui, il va faire campagne vraiment en agitant la peur du péril communiste, qui est une vraie peur à l'époque, hein. Le truc, c'est que, enfin, moi, étant français, j'ai conscience que, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les communistes représentent une vraie force politique un peu partout en Europe, et notamment en France. Ils sont auréolés de la gloire de la résistance à laquelle ils ont tous activement participé. Mais le communisme en Australie, enfin, est-ce que ça existe et qu'est-ce que ça donne à l'époque?
C'est une très bonne question. Vous avez raison de rappeler que le communisme est une force très importante à la sortie, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elle est importante en Grande-Bretagne, en France, dans pas mal de démocraties libérales. Je crois que c'est plus de 25% aux élections qui sont organisées. Après, il ne faudra pas me citer là-dessus, mais c'est que c'est important. Ils font partie du gouvernement provisoire de la République française entre 1944 et 1946. C'est une force politique vive, beaucoup moins en Australie. Beaucoup moins en Australie, pour des raisons attenantes au pouvoir, à la force du parti travailliste. Le parti de gauche, le Labour Party, est très bien structuré. Il sert les intérêts des ouvriers et finalement, il n'y a pas nécessairement besoin de se radicaliser. D'autant plus que, vous savez, le parti anti-immigration, généralement en Australie à cette époque, c'est plus la gauche que la droite, parce que la gauche veut qu'il y ait beaucoup plus de demandes pour les employés que d'offres pour faire monter les salaires. Et la droite veut inonder le marché de migrants pour faire baisser les salaires. Pas du tout le même schéma qu'en France. Et donc, à l'époque, dans les années 20, 30, 40, 50, vous avez un parti communiste australien, on va y revenir, hein, mais il est aussi important que son grand frère britannique, par exemple, ou que dans d'autres colonies ou dominions britanniques. Donc, si vous voulez, là, on est à un moment structurant où, en réalité, les États-Unis ne sont plus les seuls à avoir la bombe atomique en 1949. Les tests soviétiques ont été réalisés. Il y a une peur qui s'installe parce que, peu à peu, le Iron Curtain, le rideau de fer dont a parlé Winston Churchill, s'abat sur l'Europe. Et ça fait peur. Et ça fait peur parce que, en France, on a grandi avec les États-Unis, la Normandie libérée en 1944. Les personnes qui libèrent l'Europe sont les Soviétiques, hein. C'est les premiers à Berlin. C'est une vague extrêmement puissante. C'est pour ça que les États-Unis utilisent l'arme nucléaire au Japon pour essayer de les impressionner et pour au moins gagner sur un front et mettre fin à la guerre du Pacifique, sinon Joseph Staline se serait mêlé également. Et donc, les communistes sont en train de s'étendre. On le voit bien, il y a des tensions qui donneront lieu très prochainement l'année d'après que Menzi arrive au pouvoir en 49, enfin revient au pouvoir en 49, vous avez le début de la guerre de Corée. Donc, lui, il fait campagne sur l'anticommunisme. Et en fait, il explique que oui, le parti travailliste, donc ce qu'on appellerait les socialistes chez nous, en fait, ce sont des proto-communistes, ils sont très dangereux, et puis on va se retrouver sous la coupe de Moscou. C'est absolument n'importe quoi. C'est pour faire peur aux gens, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne au point, il essaye, enfin, non, il essaie pas, il légifère pour que le parti communiste soit interdit. Et donc il est au gouvernement, il est premier ministre, il a de toute façon la majorité, il y a une loi qui est votée pour interdire le parti communiste australien. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais enfin le but c'est de dire, voyez, on est super actif, on va être sous la protection des États-Unis, le traité ANZUS arrive peu d'années après, et surtout on va éviter cette contagion communiste. C'est le macartisme un peu avant l'heure, hein, si vous voulez, dans le contexte australien. Le parti communiste, bah, fort de son droit, va à la Cour suprême australienne et gagne. Et la Cour suprême, 6 juges sur 7, explique qu'en fait la loi qu'a promulgué le gouvernement, bah, elle n'est pas légale en fait vis-à-vis de la Constitution. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que Menzies, c'est un excellent avocat et ça a été un ministre de la Justice et il se sait retoquer. Je pense qu'il le savait. Je pense qu'il comme un bon avocat, il a joué sa carte. Si ça fonctionne et que ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Et donc, ça ne passe pas. Et donc, le parti ne peut pas être banni parce que ça va contre la Constitution. Bah, vous savez ce qu'il fait? Il organise un référendum pour changer la Constitution. Et demander aux Australiens, OK, bah, j'ai été rebooté par la Cour suprême, mais un des moyens d'y arriver ensemble, c'est que vous me donniez un bon pouvoir pour changer la Constitution. Et enfin officiellement bannir le parti communiste. Bon bah en fait les Australiens, même s'ils sont assez anticommunistes, un, ils voient que le parti communiste n'est pas une réelle menace pour l'Australie, et deux, ils ne sont pas prêts à ce qu'un gouvernement légifère sur les idées. Ça paraît assez antidémocratique. Et donc le référendum et d'essai, une très courte avance du non, hein. Je crois qu'on est à 50% et demi, enfin, c'était quand même assez divisé. Mais vous avez des gens de droite qui ont voté non parce que ils pensaient que en fait ça limiterait la liberté en Australie et que c'était contre leurs valeurs. Pareillement, vous avez quelques personnes de gauche qui ont voté également parce qu'elles se disaient, bon bah s'il n'y a plus de parti communiste, c'est très bien, parce que du coup ça c'est un parti socialiste ou un parti Labour encore plus grand. Donc c'est une période assez bizarre de l'histoire australienne où on voit des communistes partout, on voit des espions partout, on renvoie des gens de l'Union soviétique, il y a des défections. Et effectivement, pendant ces années-là, la première décennie du mandat Menzies, donc de 49 à 59, c'est je vous protège du communisme, circuler, il n'y a rien à voir, et surtout le parapluie nucléaire et militaire des États-Unis.
Nous allons en rester là pour aujourd'hui. Nous publierons d'ici quelques jours la quatrième et avant-dernière partie de cet épisode consacré à Robert Menzies, qui, je le rappelle encore une fois, est le premier ministre australien qui a le plus longtemps exercé cette fonction dans l'histoire. On s'intéressera dans cette quatrième partie à ses dernières années au pouvoir, qu'il va finir par quitter de son propre gré en 1966. À très bientôt et merci pour votre fidélité.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.